au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Bonjour, 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 bonjour. Pourquoi quatre fois bonjour? Ben, tu sais, puisque j'ai quelqu'un avec moi dans le studio, on va lui demander. Alors, André Lacombe, qui fait notre chronique éphéméride aujourd'hui.
Bonjour, Denis Martin.
Alors, pourquoi quatre fois bonjour?
Parce que c'est quatre fois mieux qu'une seule fois.
C'est... Ah, enfin, quelqu'un qui donne la bonne réponse. Puis je vais ajouter, parce que c'est quatre fois plus chaud, puis il va faire quatre fois plus chaud dans les prochains jours.
Pas aujourd'hui.
Ah, ça se réchauffe aujourd'hui? Ah oui, puis justement, puisque je vous parle de météo, ben ouais, je pense que là, on tourne la page. Comptez d'aujourd'hui, ben alternance soleil et nuages dans le sud du Québec. Température qui amorce une remontée. Aujourd'hui, 2 degrés, mais ça peut peut-être aller même jusque dans les 10-12 degrés hein, dans les prochains jours, ce week-end. Alors, même chose dans l'est du Québec, on est en remontée. C'est sûr que c'est un peu plus froid là-bas. En fait, ce matin, hein, je sais pas si vous vous êtes rendu compte en sortant de la maison, oh boy, boy, qu'il faisait froid. Mais bon, c'est la dernière fois, on l'espère, avant le prochain hiver, hein, en décembre. Cela dit, en Ontario, les températures là-bas, c'est plus chaud. Alors, on voit que déjà, là, eux, commencent à profiter de cette remontée, de ce... On pourrait dire... Est-ce qu'on peut dire... Ouais, un redoux. Hein, un bon redoux, ça va nous faire du bien. Mais la définition du redoux, je pense que c'est plus que ça. Mais en tout cas, tant pis. Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard. Là aussi, le temps se réchauffe. C'est plus instable à Saint-Jean-de-Terre-Neuve et Labrador. Il y aura des précipitations. Les provinces de l'Ouest, là, les prairies, là-bas, je pense qu'ils ont besoin d'aide parce qu'il a fait froid beaucoup ces derniers temps. Alors, on pense même atteindre 10 degrés par endroit là-bas. Puis évidemment, en Colombie-Britannique, ben, la côte, c'est toujours plus chaud, autour de 8 degrés, avec de la pluie. Je pense qu'eux autres, il pleut tout le temps en hiver, hein? Pauvreux. André Lacombe, on va parler de quoi aujourd'hui?
D'éphéméride.
Oui.
Enfin, c'est l'éphéméride du 3 mars.
Du 3 mars, puis il y a beaucoup de choses.
Les événements qui se sont produits dans l'histoire, mais on ajoute à ça les prénoms du jour, thème de la journée mondiale, les anniversaires de naissance, de décès, etc.
Bon,
c'est un tour d'horizon complet.
Un bon petit tour qu'on fait un peu plus tard dans la première demi-heure. Et ben moi, je vous propose aussi un peu plus tard une entrevue pour parler du festival Filministe, festival qui met en lumière des films qui sont peut-être produits par des personnes de toutes sortes de minorités et surtout des films qui peuvent être mis de l'avant par des cinéastes et artistes féministes qui... peut-être n'ont pas toujours la chance d'être mis en lumière, bien, ce festival-là leur donne une chance. Alors, on va découvrir tout ça avec Gabrielle Doré, qui est une co-directrice donc, du Festival Les Féministes. On va aussi rencontrer Victor Junior Roberge, qui vient de recevoir une médaille de l'Assemblée nationale pour son implication, son engagement auprès de plusieurs communautés. Lui-même, issu d'une famille autochtone, il... agit depuis plus de 15 ans à l'inclusion des communautés de LGBTQIA+. Il parle aussi des femmes et des personnes vulnérables. Donc, une personne intéressante qui va nous parler de ses motivations et pourquoi il s'engage tant dans la communauté. Et on termine avec une entrevue avec le comédien Étienne Thibault, qui va nous parler de la pièce de Top Can, j'espère que je le prononce comme il faut, présentée chez Duceppe à compter donc de cette semaine. Nous, on s'en va. Ah oui, j'ai fait de la météo. On s'en va en musique.
Tant pis pour elle. Quelle belle nouvelle, quelle belle nouvelle, que celle que tu aimes n'était qu'une étincelle, qu'elle brûle avec elle, retour à l'essentiel, moi le bleu de tes yeux et toi le dieu de mon ciel. Quelle belle nouvelle, quelle belle nouvelle, que celle que tu aimes n'était qu'une étincelle, qu'elle brûle avec elle. Fini ce bordel, hésitation à terme. C'est moi que tu aimes, t'as donc plus besoin d'elle. C'est la fin de tes querelles, tes pluies torrentielles. Elle, elle pleuvait sur toi, moi je te donne des ailes. Tu me donnes des ailes, viens on s'échappe du système. Que je la vide de tes veines, jusqu'à ce que rien ne l'appelle. Regarde mes lèvres. C'est notre lune de miel et tant pis pour elle. Quelle belle nouvelle, quelle belle nouvelle, que celle que tu aimes n'était qu'une étincelle, qu'elle brûle avec elle, retour à l'essentiel, moi le bleu de tes yeux et toi le dieu de mon ciel.
Charlotte Cardin et sa chanson « Tant pis pour elle ».
C'est le temps maintenant de cette revue de presse. Aujourd'hui, évidemment, tout ce qui se passe en Iran et au Moyen-Orient retient l'attention d'à peu près, de tous les quotidiens aujourd'hui. Le Moyen-Orient s'enfonce dans l'incertitude alors que les frappes se multiplient. Le président états-unien Donald Trump a ouvert la porte hier à une opération militaire prolongée en Iran. Il refuse d'exclure même le déploiement de troupes au sol, affirmant que les capacités militaires des États-Unis permettent une offensive s'étendant bien au-delà d'un mois. Sur le terrain, la situation est critique. Téhéran a été secoué par de puissantes explosions cette nuit après de nouveaux tirs de missiles israéliens. En riposte, les gardiens de la Révolution menacent de bloquer le détroit d'Ormuz, ce qui pourrait faire bondir le prix du pétrole à 200 $. Le conflit déborde désormais sur les pays voisins. Des ambassades états-uniennes ont été visées au Koweït et en Arabie saoudite, tandis qu'au Liban, les frappes israéliennes contre le Hezbollah ont déjà fait 52 morts. Washington appelle maintenant ses ressortissants à quitter immédiatement 14 pays de la région. Je continue toujours sur cette nouvelle. Donc, tempête sur les prix à la pompe, c'est dans la presse ce matin. C'est le contre-coup économique du conflit en Iran. Donc, le prix de l'essence s'apprête à bondir. Le prix du baril de pétrole a déjà grimpé de 8 % hier à la bourse de New York. Cette hausse est immédiate pour les consommateurs en raison du système comptable de l'industrie où le dernier litre entré en inventaire est le premier vendu. Si la situation fait rager les automobilistes, elle offre un répit inattendu à l'Alberta, dont les revenus dépendent largement de l'or noir et qui s'apprêtait à enregistrer un déficit de 9 milliards de dollars en raison de la baisse des prix du pétrole. Ça va peut-être changer les choses là-bas. Toutefois, l'inquiétude domine à l'échelle mondiale. Le blocage du détroit d'Ormuz menace 20 % de la consommation mondiale de brut. Les experts craignent désormais un scénario catastrophe où une hausse prolongée des prix de l'énergie viendrait relancer l'inflation et paralyser la croissance économique globale. Alors, en règle générale, chaque augmentation d'un dollar états-unien du prix du baril de pétrole brut, ça se traduit par une hausse d'environ 1 cent le litre à la pompe pour le consommateur. Et puis, dans la presse encore, le conflit au Moyen-Orient paralyse désormais les liaisons internationales. Air Canada a annoncé la suspension de tous ses vols vers Dubaï et Tel Aviv jusqu'au 23 mars prochain. La compagnie invoque la sécurité des passagers comme priorité absolue face à l'instabilité militaire. L'onde de choc touche aussi l'aéroport Montréal-Trudeau, où les transporteurs Qatar Airways et Emirates ont également annulé plusieurs liaisons. Pour les voyageurs canadiens à l'étranger, la situation est précaire. Certains se retrouvent bloqués en Asie, hein, parce que souvent, ils font des correspondances par des vols comme Emirates et doivent arrêter dans la région. Et bon, les aéroports et tout ça, c'est fermé. Les vols sont annulés. Donc, on le dit, certains se retrouvent bloqués jusqu'en Asie parce que le vol de retour devant survoler ou passer par un des pays de cette région sont annulés. Et ils se retrouvent avec des options de retour limitées, parce que les prix grimpent jusqu'à 3 000 $, hein, pour revenir. Ottawa recommande d'ailleurs d'éviter tout voyage vers Israël, la Palestine, l'Iran et les Émirats arabes unis. Et dans la presse ce matin, on parle de Mark Carney maintenant, qui tente un rapprochement historique avec New Delhi. Selon donc l'article, sa rencontre avec Narendra Modi a mené à la signature de 10 ententes commerciales totalisant plus de 5,5 milliards de dollars, dont un contrat majeur pour l'entreprise Cameco qui fournira l'uranium à l'Inde. Cependant, ce renouveau économique se fait sous une ombre persistante, celle de l'ingérence étrangère, alors que de nouvelles allégations lient le personnel consulaire indien à l'assassinat d'un militant sikh en Colombie-Britannique. Mark Carney a dû annuler sa conférence de presse à la dernière minute. Si Ottawa affirme que ces activités-là ont cessé, la ministre Anita Anand a tout de même dû rappeler que la sécurité des citoyens canadiens demeure la priorité absolue de ce partenariat. Alors, la firme Cameco, pour information, est basée à Saskatoon. C'est l'un des plus grands producteurs d'uranium au monde, représentant environ 12 % de la production mondiale. Tragédie à Chambly maintenant dans le Devoir. La communauté de Chambly en Montérégie est sous le choc après un accident tragique survenu hier après-midi. Un garçon de 6 ans a perdu la vie après avoir été gravement blessé à la tête alors qu'il se trouvait à la butte à glisser du parc Robert Lebel. Les services d'urgence ont été dépêchés sur les lieux vers 14h50, mais le décès de l'enfant a malheureusement été constaté peu après son transport au centre hospitalier. Pour l'instant, les circonstances exactes entourant ce drame demeurent nébuleuses. Une enquête du coroner a été ouverte et des techniciens en identité judiciaire ont été envoyés sur place afin d'analyser la scène et de comprendre comment une activité hivernale a pu basculer ainsi vers la fatalité.
C'est toujours plus beau quand c'est toi qui danse. Va falloir que tu me tiennes fort. Des fois je perds le nord. Mais fais-moi confiance, je vais follow le tempo, peu importe la cadence. Hold me close, même si le monde explose. Moi je peux durer une chose. I will hold you close. Hold me close, même si le monde explose. Qu'on se dépose. Puis si jamais je me sauve, rappelle-toi que mon cœur est un Rolling Stone. Je vais revenir te voir. Dis-toi que tôt ou tard, nos deux cœurs vont vouloir se revoir. Hold me close, même si le monde explose. Moi je peux durer une chose.
Roxane Bruno et sa chanson « Hold Me Close ».
Eh oui, et aujourd'hui, c'est le 3 mars. Alors, je vais juste vous dire qu'on est la 62e journée de l'année. Il en reste 303 avant quoi?
Avant...
Le 31 décembre?
Oui, avant le bye-bye que je dis. Il y a une auditrice qui un jour a écrit ici et a dit « Arrête, là, arrête de nous parler de temps des fêtes maintenant. »
C'est un peu tôt quand même.
C'est un peu tôt. Alors, pour justement parler de l'éphéméride, on reçoit donc André Lacombe. Alors, André, c'est un 3 mars. On débute avec le thème de la journée mondiale et le prénom du jour.
Oui. En fait, des journées mondiales, on devrait dire,
parce qu'il y
en
a deux. Il y a tellement de journées mondiales qu'il y en a plus que de nombre de jours dans l'année.
C'est vrai, t'as raison là-dessus. Ouais. C'est un 2-pour-1 aujourd'hui. D'une part, depuis 2014, tous les 3 mars, c'est la journée mondiale de la vie sauvage, telle que décrétée par l'ONU. En fait, c'est une journée qui vise à sensibiliser le grand public à la faune, la flore et les dangers liés au trafic mondial des espèces sauvages. Ça, c'est plusieurs milliards de dollars chaque année. C'est pas rien.
Quand même, ouais.
C'est aussi sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, la Journée mondiale de l'audition, qui a pour objectif d'informer le grand public sur les moyens de prévenir la surdité et les déficiences auditives, et aussi de promouvoir ce qu'on appelle les soins auriculaires. Ça, c'est les soins de l'oreille externe et du conduit auditif, et les soins auditifs en général à travers le monde. Donc, deux journées mondiales aujourd'hui.
Deux journées mondiales. Je dois intervenir parce que c'est sûr que dans le mode de vie dans lequel on est, les gens ont des écouteurs sur la tête, en fait, des petits écouteurs, et on doit limiter le son.
Absolument.
Moi, je le fais de mon téléphone parce que on peut développer de la surdité
absolument,
avec ça.
Absolument.
Et puis moi, il y en a dans ma famille, mais bon, bonne nouvelle. J'entends tout, sauf ce que je ne veux pas entendre.
Vous avez raison de mettre l'accent là-dessus. Et pour le prénom du jour, ben, c'est un prénom breton très rare ici, Guénolé.
Guénolé. Ah, ouais.
Oui, c'est la première fois que j'entendais ce prénom. Issu de deux termes celtes, Gwen pour heureux et Gual pour valeureux. Alors, heureux et valeureux, ça part bien dans la vie, ça.
C'est un beau
quand
prénom.
On s'appelle Guénolé.
Guénolé,
voilà.
Ouais, un beau prénom. Alors, peut-être que ça va faire, maintenant que les gens l'ont entendu à Canalem, il y aura peut-être des enfants
qui
vont se faire appeler Guénolé désormais. Et ben, les gens t'en voudront pour le reste de leur jour. Non,
quand même pas.
Je suis content. Alors, on continue, André. On fait quelques faits marquants, justement, en ce 3 mars.
En 1875, la première partie de hockey intérieure recensée en Amérique du Nord, ben, elle a lieu à l'Arena Victoria à Montréal. C'est à l'endroit où se trouve maintenant un stationnement intérieur, juste à côté de l'hôtel Sheraton sur le boulevard René-Lévesque. Eh oui. Et ce sont 19 joueurs de l'Université McGill, des étudiants, en fait, à McGill, qui prennent part à ce match.
Okay.
Le 3 mars 1878, la Bulgarie déclare son indépendance de l'Empire ottoman, qui deviendra plus tard la Turquie. Et cette indépendance-là sera officiellement reconnue 30 ans plus tard, le 22 septembre 1908. En 1919, première livraison internationale de courrier par avion entre Vancouver et Seattle, effectuée entre autres par un certain William Boeing. Boeing, ça nous dit quelque chose?
Oui.
C'est effectivement celui qui a fondé le fabricant d'avions.
Oui,
tout à fait. En 1922, un spectaculaire incendie ravage l'hôtel de ville de Montréal. Seuls les murs de pierre qui entourent le bâtiment survivent au sinistre.
Est-ce qu'ils sont... Une autre question. Est-ce qu'ils sont encore là? C'est les mêmes murs où on a changé depuis ce temps-là?
C'est une excellente question.
On n'a pas la réponse. Alors, si quelqu'un nous entend, je vérifierai sur Internet.
Oui, ça vaudrait la peine de vérifier ça, effectivement. En 1923, le légendaire Time Magazine est vendu en kiosque pour la première fois. Et comme plusieurs le savent, ben, chaque année, le Time Magazine décerne le titre de personnalité de l'année. Ça, c'est depuis 1927. Et la seule fois où c'est un non-être humain, je devrais dire, qui a été choisi, c'est en 1982, c'est l'ordinateur.
Ah!
C'était prophétique, ça. Non. 1982, l'ordinateur, pour le grand public, en était assez balbutiement. Alors, c'est en 1982 que c'est arrivé. En 1924, le réformateur Mustafa Kemal Atatürk abolit le califat ottoman en Turquie et ouvre la voie à la création d'une démocratie dans ce grand pays du Moyen-Orient. Et effectivement, la Turquie a été un phare pour la démocratie dans le Moyen-Orient pendant plusieurs années. D'abord sous l'égide d'Atatürk, et ça s'est poursuivi, mais après ça, il y a eu un retour de l'islam en force. Et comme on le sait présentement avec Erdogan, c'est vraiment une république islamique.
Ouais.
En 1964, la Trans-Canada Airlines devient Air Canada. En 1966, dans une entrevue au quotidien Evening Standard de Londres, John Lennon affirme que les Beatles sont plus populaires que Jésus-Christ. Hein, c'est une nouvelle ça, qui a fait le tour du monde à l'époque, qui a provoqué un scandale. Je me rappelle d'avoir entendu ça dans le temps. C'était vraiment une grosse affaire, comme on dit. En 1991, Céline Dion, nommée chanteuse de l'année lors de la soirée des prix Junos, et elle reçoit également le Juno pour le disque de l'année avec Unison.
Oui, je pense que c'était son premier album anglais, hein, c'est ça?
Je crois que oui, effectivement.
Ouais.
C'est un des premiers albums qui l'a vraiment propulsé là, comme une grande star. Et la même année, en 91 toujours, c'est le début de l'affaire Rodney King, alors qu'un cinéaste amateur filme quatre policiers en train de tabasser un automobiliste noir au bord d'une autoroute de Los Angeles. C'est des images qui vont faire le tour du monde. Et je dirais que on peut dire que la situation s'est dégradée dans l'année qui a suivi et ça a culminé avec l'acquittement des policiers par 12 jurés blancs, une décision qui a provoqué des émeutes qui vont faire 58 morts. C'est pas rien, cette affaire-là.
Bon, ouais.
Et il y en a eu d'autres aux États-Unis, mais ça a vraiment
été... Il y a eu George Floyd pendant la pandémie, puis qui a vraiment créé tout un émoi Black Lives Matter, en fait.
Absolument. Mais c'est pas d'hier, et malheureusement, l'histoire se perpétue à ce niveau-là.
Malheureusement, l'histoire a tendance à avoir des pertes de mémoire, puis on refait les mêmes choses. Bon, alors on retourne à quelques dates d'anniversaire.
Oui. Alors, on commence avec les anniversaires de naissance. On remonte très loin dans le temps, en 1692, Madeleine de Verchères, qu'on a nommée héroïne de la Nouvelle-France. Et pourquoi héroïne? C'est qu'à l'âge de 14 ans, on dit qu'elle tient tête à un assaut des Iroquois lors du siège d'un fort où elle se trouve, avec un petit groupe de femmes et d'enfants. Mmh. Alors, usant de toutes sortes de subterfuges, elle aurait repoussé l'assaut des Iroquois. En 1831, George Pullman, un industriel américain qui a inventé le wagon-lit, rendant ainsi les longs voyages en train plus confortables. Alors, George Pullman. En 1847, à Édimbourg, en Écosse, le scientifique et ingénieur Alexander Graham Bell, l'inventeur du téléphone.
Ouais.
Et pour la petite histoire, il fait ses études sur la phonétique et fonde en 1872 une école pour les malentendants. Et c'est là qu'il débute ses travaux qui aboutiront à l'invention du téléphone.
Il faut le faire, hein?
Oui, absolument. Un grand, grand inventeur. On lui doit beaucoup. En 1890, le célèbre médecin canadien Norman Bethune.
Ah, puis oui. On a fait tellement un bon film là, sur sa vie.
Absolument. Mais... je ne me souviens plus du titre, mais vous avez raison. Ça fait déjà un certain temps, mais j'aimerais bien revoir ce film-là, d'ailleurs. On dit que c'est le premier occidental reconnu comme un héros en Chine. Grâce à son rôle de chirurgien au sein de la 8e armée de terre chinoise de 1937 à 1939. Ça, c'est durant la Seconde Guerre avec le Japon. Et pourquoi héros? Ben, c'est que pendant cette période, il a mis sur pied des banques de sang mobiles afin de fournir des transfusions aux soldats blessés sur les champs de bataille. Et il meurt le 12 novembre 1939 d'un empoisonnement du sang contracté durant une opération effectuée sur un soldat chinois. Et ça, ça nous rappelle aussi l'histoire de Lucille Teasdale, je ne sais pas si vous vous souvenez,
oui,
qui avait soigné
en
Afrique, en Ouganda, je ne vais pas dire de bêtises, durant l'épidémie de sida, qui avait soigné les gens là-bas.
Qui elle-même a été atteinte.
Et a été atteinte de sida lors de l'opération parce qu'elle s'était coupée. Elle opérait avec des moyens de fortune. Alors, ce sont des gens qui ont donné leur vie pour une cause, littéralement.
Ouais. Quand même, hein?
Oui. En 1923, Madeleine Harbour... une des co-signataires du refus global. Décédée, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, Mme Harbour, en 2024, à l'âge de 101 ans.
Mm-hmm.
Une des pionnières des arts visuels et du design d'intérieur au Québec. Et elle avait notamment conçu des décors et des costumes pour le théâtre du Rideau Vert et la compagnie Jean Duceppe. Et en 1954, le chorégraphe Édouard Locke, fondateur de La 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 Human Steps, compagnie de danse contemporaine, en activité quand même pendant 35 ans, hein, de 1980 à 2015. Et rappelons que dès les tout débuts, jusqu'en 1998, Louise Lecavalier, leur danseuse étoile, les a aidés à propulser la troupe sur la scène internationale.
Bon, alors allons-y maintenant du côté des décès.
Oui, là aussi on remonte très loin, 1706, le musicien et compositeur allemand Johann Pachelbel, le père du fameux canon du même nom. Dieu qu'on l'a entendu, cette ritournelle. C'est joli.
C'est très joli. Et c'est, en fait, celle qu'on entend, là, j'essaie de me rappeler du nom du chef d'orchestre français. Ça date de 76, si je ne me trompe pas.
Ouais.
Il l'a refait, mais plus lent, parce que la version originale est beaucoup plus rapide. Oui.
C'est peut-être cette version-là qu'on a le plus connue, d'ailleurs.
Puis qui est rendue maintenant, pratiquement une marche nuptiale. C'est à toutes les sauces, là.
Repris de plusieurs publicités aussi. C'est pour ça que je dis ritournelle, ça peut avoir l'air péjoratif. L'œuvre est très belle, mais on l'a tellement entendue. En 1962, là, on fait un grand bond dans le temps. Karen Wilson, première femme à être nommée au Sénat du Canada, seulement 4 mois après que les tribunaux aient établi que les femmes étaient des personnes à part entière selon la loi. On est en 1962, Denis Martin.
Ça fait pas si longtemps que ça. Moi,
Canada.
Je suis en 61.
Non, mais c'est incroyable.
C'est incroyable, oui.
C'est incroyable. C'est hier matin.
Oui.
Je me demande ce qu'elles étaient avant d'être des personnes à part entière, les femmes.
Elles n'existaient pas. C'est
incroyable.
Ah, ouais. Ben, incroyable. Tu sais, ma mère me racontait que avant d'être mariée, elle avait hérité de son père. Ouais. Et à partir du moment où elle était mariée, c'était mon père qui gérait tous les avoirs de maman parce qu'elle n'avait plus le droit d'avoir de compte de banque. Elle n'existait plus. Elle s'appelait Madame Benoît Chabot.
Oui, Madame Benoît.
Madame Benoît
Chabot. On entendait ça, ouais. Je me rappelle. En 1983, le père de Tintin, du capitaine Haddock, Dupont et Dupont, nommez-les tous, Hergé, de son vrai nom, Georges Rémy. Et évidemment, ce sont les initiales à l'envers, hein, Rémy, ouais. Georges, Hergé.
Il paraît que Tintin est à son image.
Ah oui?
Oui, j'ai vu des photos, ben, il était plus vieux, mais il avait aussi le petit toupet à la Tintin, oui.
En 1993, le médecin d'origine polonaise Albert Sabin, inventeur du vaccin qui a fait régresser de façon spectaculaire la poliomyélite.
Quand même, oui.
On lui doit beaucoup, lui aussi. En 1993, l'Espagnol Carlos Montoya, guitariste de flamenco et fondateur du flamenco moderne. En 1995, Pierre Tisser, éditeur de son métier, considéré comme, on dit, le père de l'édition québécoise, et aussi, bien sûr, le père de l'animateur Charles Tisser.
Oui.
Et il a également été le mari de la journaliste et animatrice Michèle Tisser, Michèle Ahern de vrai nom, très connue elle aussi à l'époque. En 1996, la célèbre romancière française Marguerite Duras.
Ah oui, Marguerite Duras, Moderato Cantabile.
Oui,
ah, je pense toujours à cette... Ah, c'est tellement magnifique et c'est un court roman, on pourrait même le qualifier d'une nouvelle, et qui est écrit dans le rythme, dans un rythme moderato cantabile. Ah, c'est hallucinant comment on peut, en le lisant, on a l'impression d'entendre
la
musique.
On entend le rythme.
Ah, ouais. C'est hallucinant, ouais. C'est tellement beau. À mon avis, c'est un chef-d'œuvre, ce roman.
Oui. Ouais. Et en 2024, la chanteuse québécoise Emmanuelle.
Ah, mon Dieu.
De son vrai nom, Ginette Fillion. On l'a tous connue sous le nom d'Emmanuelle. Et elle sera connue, bien sûr, pour son interprétation de nombreuses chansons de Stéphane Venn, l'auteur-compositeur. Et c'est pas fini, Le monde à l'envers.
Ouais. C'est pas fini, qui a été repopularisé par Star Academy il y a plusieurs années. Mais vraiment, c'était une chanson aussi qui avait une certaine couleur nationaliste au Québec, parce que Stéphane Venn, on le sait, était un indépendantiste de longue date.
Ouais.
Et donc, cette chanson était... Ah, mon Dieu, j'ai dépassé dans le temps. Non, on est bon.
On est bon?
On a fait le temps. Je pensais que j'avais oublié une feuille, mais non, on est tout bon.
Ouais.
Hey, André, c'est toujours intéressant de regarder l'histoire.
Absolument. Ben oui, j'adore ça.
Parfois, quand on regarde l'histoire, on se dit « Oh mon Dieu, on oublie puis on répète les mêmes erreurs. »
Oui, malheureusement.
On se revoit très bientôt. Merci beaucoup
d'avoir été là. À bientôt, Denis
Martin. Merci. Un petit rappel de la météo. Là, c'est des bonnes nouvelles. Je pense que là, on va se réchauffer un peu pour les prochains jours. C'est déjà ça de gagner. On peut pas vous promettre que c'est la fin du printemps parce que, semble-t-il, nos marmottes se sont trompées. Est-ce que tu as vu ton ombre quand tu t'es levé l'autre jour?
Moi, je suis trop lumineux, je ne vois pas mon ombre.
Puis il y en a qui tirent plus vite que leur ombre. Lucky Luke, qui n'a pas été dessiné par Hergé, comme on a dit tout à l'heure. Hergé qui était avec Tintin. Après la pause, donc, nous allons parler de théâtre, de films et de bénévolat. À tout de suite!
Écoutez au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Souviens-toi que l'on peut tout donner.
Souviens-toi du jour, une chanson de Mylène Farmer.
Ah, la belle Mylène. Ah, je voulais voir son spectacle en 2023. Et il y avait eu... ça a été annulé parce que c'était au moment où le jeune Naël avait été abattu par la police à Nanterre et qu'il y avait eu plein d'émeutes sur Paris pendant... ça a duré un bon 10 jours.
Est-ce que ça aurait été la première fois?
Oui, oui, parce que c'est... Mylène Farmer n'est jamais venue au Canada.
Non?
Non, parce que c'est trop compliqué pour elle. Ses spectacles, c'est toujours très grandiose, avec beaucoup de décors, beaucoup de... Et ça aurait été compliqué de venir au Canada. Et pourtant, elle est canadienne. Hein? C'est quand même intéressant. Ah, votre micro n'était pas ouvert.
Oui, non, ben je me grattais...
Grattais l'esprit.
Exactement.
Bon, alors nous, on va aller avec des paractualités. Selon TVA Nouvelles du 2 mars, c'est un moment de grande émotion dimanche à Los Angeles. Lors des 32e Actor Awards, l'acteur d'origine canadienne Michael J. Fox a reçu une ovation de plus de 15 secondes lors de l'ouverture de la cérémonie. Aujourd'hui âgé de 64 ans, c'est très jeune sans passant, la vedette de Retour vers le futur est revenu avec humour et humilité sur ses débuts précaires dans la Cité des Anges. Avant de connaître la gloire, l'acteur a confié qu'il était si démuni qu'il devait parfois fouiller dans les poubelles pour se nourrir. Malgré les défis imposés par la maladie de Parkinson, Michael J. Fox a conclu son témoignage avec fierté, entouré de son fils Sam, se rappelant que c'est ce métier qui lui a permis de bâtir sa famille et de rencontrer son épouse Tracy Pullen il y a 37 ans. Alors Michael J. Fox a créé sa propre fondation en 2000, laquelle est devenue le plus important donateur privé au monde pour la recherche sur la maladie de Parkinson. C'est une première historique selon Radio-Canada.ca du 2 mars pour nos athlètes paralympiques d'hiver qui s'apprêtent à s'envoler vers l'Italie pour les Jeux de Milano-Cortina. Le Comité paralympique canadien a confirmé que les médaillés recevront désormais des bourses de performance identiques à leurs collègues olympiques, soit 20 000 $ pour l'or, 15 000 pour l'argent et 10 000 pour le bronze. Cette reconnaissance financière est accueillie avec un immense soulagement pour les athlètes comme le planchiste Tyler Turner. Ce dernier rappelle que l'équipement spécialisé coûte une petite fortune. Ses propres prothèses de haute technologie sont évaluées à environ 30 000 $ par jambe. Au-delà de l'équité symbolique, ces primes permettront enfin à plusieurs para-athlètes de compenser les frais exorbitants liés aux déplacements et au matériel tout en assurant la suite de leur carrière sportive. Alors, le montant des bourses versées aux athlètes paralympiques canadiens lors des cérémonies des Jeux d'été à Paris s'est élevé, parce qu'on en donne pour les paralympiques d'été, à 825 000 $. Et puis, c'est un signal d'alarme pour les familles québécoises. Un nouveau sondage révèle qu'un parent sur deux se sent seul ou présente une santé mentale fragile après la naissance d'un enfant. Plus qu'inquiétant encore, un tiers des répondants avouent avoir souffert d'anxiété ou de symptômes dépressifs assez graves pour nuire à leur quotidien. Le réseau des centres de ressources périnatales dénonce un manque de préparation et de suivi après l'accouchement. Si le soutien médical est intense durant la grossesse, les parents se retrouvent souvent isolés une fois de retour à la maison. Malgré l'existence d'organismes communautaires pour les épauler, seulement 12 % des familles y ont recours, souvent par méconnaissance ou par peur de demander de l'aide. Selon la Société canadienne de pédiatrie, la dépression postpartum non traitée chez l'un des parents peut avoir des effets à long terme sur le développement cognitif et émotionnel de l'enfant, soulignant l'importance d'un dépistage précoce. Puis, Mgr Marc Ouellette défend son honneur en justice, selon Radio-Canada. Le procès en diffamation intenté par le cardinal Marc Ouellette contre son accusatrice Pamela Grollo s'est ouvert hier à Montréal. L'ancien numéro 3 du Vatican a témoigné de sa consternation face aux allégations d'inconduite sexuelle qui pèsent contre lui, pèsent sur lui, depuis 2022. Le prélat affirme que sa réputation mondiale a été injustement entachée par des amalgames avec des cas de pédophilie. Bien qu'il nie les gestes déplacés allégués par Mme Grollo, le cardinal a admis à la barre une maladresse envers une autre femme à qui il avait glissé un billet de 50 $ dans son corsage en 2014. Marc Ouellette soutient n'avoir aucune intention de tirer bénéfice matériel de cette poursuite. Il s'est engagé à verser toute compensation obtenue à des organismes luttant contre les abus sexuels chez les personnes autochtones. Le cardinal Marc Ouellette a occupé la fonction de préfet de la Congrégation pour les évêques au Vatican de 2010 à 2023, l'un des postes les plus influents de la Curie romaine.
l'a dit, comme l'a dit, comme l'a dit sa grande. Comme l'a dit, comme l'a dit, comme l'a dit sa grande. Comme l'a dit, comme l'a dit, comme l'a dit sa grande. Comme l'a dit, comme l'a dit, comme l'a dit sa grande. Un pixel dans l'univers. Un saphir dans une rivière, c'est notre maison au bout du rang de la galaxie. C'est 8 milliards de personnes tombées dans l'oubli. La Terre est un petit point bleu, dans l'infini le noir est vaste et silencieux. Aucun signe de vie ailleurs, aucune lueur dans la noirceur. Nous sommes notre éternelle bête noire. Un pixel dans l'univers. Comme l'a dit, comme l'a dit, comme l'a dit Satan. Comme l'a dit, comme l'a dit, comme l'a dit Satan. Comme l'a dit, comme l'a dit, comme l'a dit Satan. Comme l'a dit, comme l'a dit, comme l'a dit Satan. On vient tous la même racine, d'une pousse d'étoiles dans une usine. Un jour on reviendra d'où on est parti. Comme une seule et même chose dans l'infini. Quand nos peurs seront tombées et nous verrons enfin toute la beauté. Ça pleut, ça hurle partout la guerre, dit charlatan, pour nous dire que notre voisin est du mauvais sang. Pixel dans l'univers. Comme l'a dit, comme l'a dit, comme l'a dit Satan. Comme l'a dit, comme l'a dit, comme l'a dit Satan. Comme l'a dit, comme l'a dit, comme l'a dit Satan. Comme l'a dit, comme l'a dit, comme l'a dit Satan. Comme l'a dit, comme l'a dit, comme l'a dit Satan. Comme l'a dit, comme l'a dit, comme l'a dit Satan. Comme l'a dit, comme l'a dit, comme l'a dit Satan. Comme l'a dit, comme l'a dit, comme l'a dit Satan. Comme l'a dit, comme l'a dit, comme l'a dit Satan. Comme l'a dit, comme l'a dit.
Comme l'a dit Sagan, une chanson de Mentana.
Le cinéma comme outil de mobilisation et de dialogue, c'est la promesse du festival Filminisme. Et quel beau mot bien inventé, on va d'ailleurs en parler, qui revient pour une 9e édition du 4 au 15 mars, avec 67 courts-métrages et une programmation qui voyage de l'Espagne à l'Irak. Le festival continue de mettre en lumière des voix trop souvent invisibilisées. Pour en discuter, je reçois Gabrielle Doré, co-directrice du festival. On va aussi parler de la structure du festival, c'est intéressant. Bienvenue à l'émission, Gabrielle.
Merci.
On va se tutoyer, ça te va?
Oui.
Alors, le festival entame sa 9e année. Mm-hmm. Comment la mission de valoriser les personnes sous-représentées derrière et devant la caméra a-t-elle évolué depuis 2018?
C'est sûr que les sujets, on essaie toujours d'être près de l'actualité, donc on va varier un peu les sujets. Depuis l'existence du festival, c'est surtout dans les thématiques qu'on aborde qui sont liés à l'actualité, et comme l'actualité change, vous le savez, beaucoup, ben on aborde différents sujets. Je pense que c'est surtout ça qui a changé au fil des années, mais le cœur, le noyau de la mission est toujours resté le même depuis 9 ans.
Qui sont ces personnes sous-représentés ou invisibilisés dans le cinéma. J'ai ma petite idée, mais je vais vous laisser le dire.
Oui, on en parlait avant d'entrer en onde. Les femmes sont certainement celles qu'on essaie de mettre de l'avant, mais vous me demandez qu'est-ce qui a changé au fil des ans. Il y a aussi les personnes non-binaires, les personnes queer, qu'on essaie de plus en plus de mettre de l'avant et qui ont besoin, je crois, d'être représentées aussi, effectivement, devant et derrière. Mais il y a aussi, bon, les personnes en situation de handicap, devant et derrière, encore une fois, à la caméra. Les diversités de genre aussi, notamment. Mais on essaie vraiment de toucher le plus de gens possible, évidemment en mettant de l'avant les femmes et personnes queer et non-binaires, mais voilà.
Et ça se reflète aussi même dans votre façon de gérer le festival. Mm-hmm. Parlez-nous, vous êtes toutes des co-directrices. Vous êtes combien déjà?
On est cinq.
Cinq co-directrices. Alors, comment ça fonctionne?
Écoute, le projet est né dans l'amitié et je pense que c'est toujours resté notre motto, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie dans la prise de décision, dans la programmation. On est vraiment cinq têtes qui réfléchissons ensemble au sujet, la programmation, on l'a fait à cinq. Mm-hmm. Les subventions, tout ça est fait à cinq personnes. Et il y en a même une à Kamouraska, donc on fait des réunions dans des chalets, des trucs comme ça. On essaie vraiment de rester un noyau fort. Puis je pense que ça transparaît après dans le choix des films qu'on fait. T'sais, on est cinq personnes qui se connaissent depuis plus de 10 ans. Puis je crois que ça crée une programmation qui reflète aussi cette amitié-là dans les choix qu'on fait. C'est des choix de cœur, des choix desquels on discute longuement. Après, on s'entoure aussi, on est cinq personnes qui sommes... les têtes d'affiche, entre guillemets.
Oui, parce qu'il y a toute une équipe.
Mais on est, on est vraiment, on s'entoure au partenariat, les bénévoles, tu sais, on est vraiment une équipe, en fait. C'est sûr qu'on est cinq personnes devant sur la scène, mais après, on pourrait pas fonctionner sans une équipe autour de nous, c'est sûr.
Bon, alors, il y a pas une personne qui est en charge de décider. Alors, quand vous vous disputez, comment ça se termine? Comment on réussit à régler ça?
Avec beaucoup de compromis.
Tout le monde met de l'eau dans son vin, comme on
Exactement.
Dit.
Exactement. Ouais. Puis, au final, tu sais, on est toujours à chaque année contente de la programmation. On fait des deuils. On dit souvent qu'on fait chacune au moins un deuil par année d'un film qui sera pas choisi. Mais c'est la beauté aussi de pouvoir discuter puis de développer notre esprit critique. Je veux dire, à chaque année, on découvre des films puis qui, au final, ouvrent nos horizons. Puis peut-être que Soline ou quelqu'un à côté de moi ne serait pas d'accord nécessairement avec ce choix-là, mais on peut toujours en discuter puis ouvrir, c'est ça,
Alors, c'est ce qu'on appelle une approche qui est complètement, on enlève le patriarcat, tout ça, et on décolonise l'approche.
Exactement. C'est vraiment notre souhait, puis ce qu'on met de l'avant toujours dans nos démarches.
Bon, vous misez beaucoup dans votre festival. Vous savez que vous misez beaucoup sur... Parce que quand je dis vous, c'est les cinq.
Oui.
Hein, vous misez beaucoup sur la discussion après les projections. Mm-hmm. Et on a même une interprétation LSQ, Langue des signes du Québec. Mm-hmm. Ah, c'est important, ça?
Ah, absolument. En fait, depuis très longtemps, je pense qu'on... J'oublie en quelle année on a commencé à avoir une interprétation, mais c'est sûr que nous, on vient des milieux universitaires, donc c'est une pratique qui est quand même commune.
Discussion après,
ça, dans les... Et même l'interprétation aussi, mais on trouvait que déjà l'accessibilité, c'est quelque chose qu'on veut vraiment valoriser dans toutes ses formes. Donc, on parlait tantôt de mettre de l'avant des personnes invisibilisées. C'est aussi de permettre à ces personnes-là de pouvoir venir aux projections. Puis ça vient avec... avoir des salles accessibles aux personnes en fauteuil, avoir une interprétation aussi. Après, on fait toujours des choses à chaque année, des choix pour nous améliorer. On ne sera jamais parfaite, c'est pas ce qu'on prétend, mais on veut vraiment essayer de rendre ça, rendre les discussions accessibles. Maintenant, pour les panels, on trouvait que c'était quelque chose qui manquait un petit peu. Tu sais, quand on va dans un festival de films, ben on a toujours envie d'en parler après, avec les gens avec qui on est ou après coup. Donc, on se disait, il faut offrir aux gens de nourrir leur réflexion qui suit les projections. Donc, depuis les débuts, on fait des panels après les films.
Mais ce concept, donc, moi, que j'appelle de la médiation culturelle, qui est tellement importante pour aider les gens à comprendre et à mettre de l'avant leur réflexion suite à un visionnement de film, une pièce de théâtre. Puis on voit ça de plus en plus maintenant.
Oui, puis je pense que c'est important. Puis c'est aussi né d'un besoin de... tu sais, le féminisme, là, c'est souvent un gros mot avec... qui est très chargé puis qui porte, qui peut un peu intimider, j'ai l'impression. Ou en tout cas,
certaines personnes qui ne sont pas très, très confortables avec leur masculinité, mais ça, bon, c'est autre chose.
Un autre sujet, mais on voulait que les gens puissent avancer dans leur réflexion liée au féminisme. Mm-hmm. Donc, c'était aussi ça. L'objectif.
On va parler de la programmation cette année. Vous ouvrez, le festival s'ouvre avec le film Sorda qui aborde la maternité et la surdité. Mm-hmm. Bien là, c'est vraiment intéressant de voir qu'on essaie de porter un regard pointu donc sur le capacitisme et le handicap. Ouais. Parle-moi de ça un peu.
En fait, ce film-là, ça a été un véritable coup de cœur. Tout le monde était renversé par le fait que...
Les cinq étaient d'accord?
Absolument! Cette fois-ci, oui! C'est sûr que moi, j'aime pas me mettre de l'avant, mais moi, j'ai une fille sourde. Donc,
ah oui.
C'est sûr que c'est un sujet qui m'a... un film qui m'a absolument renversé. Puis, au-delà de moi, c'est aussi un film qui aborde la maternité ou la parentalité. Mm-hmm. De manière plus large. Fait que ça paraît niché comme sujet, tu sais, le capacitisme, mm-hmm. dans la parentalité dans ce contexte-là, mais après, on pense que ça peut aussi toucher plein de gens puisque ça aborde la parentalité. Bon, dans un contexte, oui, mais ça aborde le couple, ça aborde la famille, ça aborde, tu sais, donc c'est toujours, oui, ça paraît un peu niché, mais après, je pense que c'est un film qui, dans son essence, peut aussi ouvrir à plein de réflexions sur autre sujet, mais évidemment, l'objectif initial, ou en tout cas, c'était vraiment de rejoindre cette communauté-là qui a besoin, je pense, de se voir représentée à l'écran aussi.
On retrouve des sujets comme les favelas brésiliennes, mm-hmm. les disparitions en Irak. Comment on choisit les œuvres pour que ça résonne aussi avec les actualités, notamment les actualités québécoises?
Oui, c'est vraiment par les films qu'on reçoit. C'est-à-dire qu'on fonctionne un peu par coup de cœur, j'ai envie de dire.
Ouais.
Parfois, on va fonctionner à l'inverse, c'est-à-dire on a envie d'aborder un sujet, puis là, on va chercher un film qui aborde ce sujet-là. Mais généralement, on fonctionne avec les films qu'on reçoit, et là, on construit la programmation. Puis, c'est évidemment, les films sont faits pour résonner avec l'actualité souvent, et donc, ça concorde avec, malheureusement, différentes sphères, différents sujets qui sont portés par les films vont concorder avec l'actualité. Comme je dis, malheureusement, des fois, tu sais, comme avec tout ce qui se passe les derniers jours, ben, le film de clôture sur la disparition des femmes en Irak va particulièrement résonner avec ce qui se passe au Moyen-Orient en ce moment, donc...
Et s'il y a une communauté qui est invisibilisée, c'est bien les femmes en Irak?
Oui.
En Irak, mais en Iran aussi.
Oui, c'est ça. Bien, c'est sûr que quand vous me demandez qui est invisibilisé, d'entrée de jeu, j'aurais pu faire une liste infinie.
Ouais.
Donc, les choix viennent à nous, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on construit une programmation autour des œuvres qui nous sont soumises.
Moi, je suis un gars qui aime bien rire. Et quand je vois des mots... Alors, filministe, je trouve ça vraiment le fun comme création de mots, mais les films minounes au cinéma L'Amour. J'ai une petite idée, mais c'est quoi ça?
c'est notre projection la plus populaire à chaque année.
Ah ben là, tu m'étonnes.
voilà. Parce que c'est une proposition, on va dire, spéciale ou coquine. Donc, des films pornographiques féministes, parce que oui, ça existe. Et encore une fois, ça rejoint notre mission de mettre de l'avant des trucs qui sont invisibilisés. Hein,
ouais.
Donc... sortir des cadres mainstream de la porno. Là. C'est ce
donc, se réapproprier, finalement,
absolument.
Oui, parce que la sexualité est habituellement vue par, par l'œil ou le point de vue d'un homme hétérosexuel, c'est genre.
Exactement.
Oui. Ah, ben ça...
Donc, un beau jeu de mots, oui.
Ah,
on adore les jeux de mots.
Ben, c'est sûr que j'allais poser la question. les auditeurs, les auditrices qui me connaissent savent que si j'arrive sur un mot comme ça, ben ça... Puis ça fait du bien d'en parler.
Ah oui, oui.
Il ne reste pas beaucoup de temps, puis je ne vais vraiment pas manquer plein de choses. Il y a des soirées d'écoute de documentaires sonores cette année. Alors pourquoi pas d'image, juste du son?
Oui, ben, c'est une nouveauté cette année. On essaie que les gens se concentrent sur la voix, qui peut être un autre médium pour laisser... pour transmettre en fait des idées. Hein. On ouais. peut s'asseoir tous ensemble puis écouter des balados et discuter après.
C'est les aussi balados, un autre c'est médium. De plus en plus populaire. Mm-hmm. En fait, l'écoute de balados dépasse la radio maintenant.
Oui, oui, je suis convaincue.
Puis moi, je peux vous dire, on est écouté beaucoup plus en balado qu'on est écouté quand on est en onde.
Ben moi-même, je suis fan, alors on s'est dit, essayons, on va voir cette
Pourquoi
année.
Pourquoi pas? Ouais. Ah, je vais aller rapidement, parce qu'il y a d'autres choses que je trouve intéressantes aussi. Il y a pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer dans les salles, oui. Pour toutes sortes de raisons, que ce soit par mobilité réduite ou parce qu'ils sont trop loin. Il y a une offre sur Tank, une plateforme. Comment ça fonctionne, ça?
Oui, en fait, c'est un peu comme un Netflix, là, sans le nommer. On peut choisir nos films à la maison. Puis c'est, encore une fois, pour rendre accessibles ces sujets-là pour les gens qui ne peuvent pas être avec nous.
Un mot sur les films mini.
Un autre bon jeu de mots, les films mini. Projection jeunesse, vous l'aurez deviné.
Oui.
On veut introduire les enfants ou les jeunes à des thématiques féministes avec une médiatrice culturelle. Encore une fois, toujours rendre ces sujets-là, mettre de l'avant les sujets féministes sans que ce soit trop épeurant puis trop rébarbatif.
Ah, mais qui a peur des féministes?
Il n'y a pas
à avoir peur.
Voilà, j'espère.
Alors, là, je me suis permis un petit commentaire, je ne devrais pas faire ça, mais c'est ça. Une programmation danse, c'est vraiment le fun ce que vous proposez. Merci. Je vais rappeler que le festival de Filminis se déploie du 4 au 15 mars. Pour plus d'informations, on va sur votre page web, c'est ça?
Oui, et Facebook, évidemment, ça existe encore.
Ah, Gabrielle Doré, co-directrice, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
À vous.
Alors, après la pause, deux autres entrevues qui s'en viennent. Victor Junior Roberge, qui est une figure marquante de l'engagement social, qui vient de recevoir la médaille de l'Assemblée nationale. Puis on va parler avec lui de cet engagement de cette personne qui a beaucoup de choses à raconter, de même que ses origines autochtones aussi. C'est intéressant de savoir ça. Et encore, si on parlait de personnes invisibilisées, en voici d'autres. Et puis, on va parler de théâtre. On va parler de la pièce Top Can, justement, une pièce qui a aussi une connotation donc, des premiers peuples. On va recevoir Étienne Thibault, lui-même comédien des premiers peuples, qui va être avec nous. Alors, après la pause, j'ai dit ça, je vous dis, bien, aujourd'hui, restez quand même couvert, mais ça se réchauffe. Merci beaucoup.
Vous pouvez rejoindre...
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Au sommet du temps, l'attendait dans le brouillard, une statue sculptée par les dieux. Une gourelle étrange qui fixait de son regard, gardienne d'un savoir précieux, gardienne. Travers ses sens, il pouvait à peine voir, mais finit par comprendre qu'elles étaient deux. Les jumelles en transe, traversaient dans le boudoir, grelottant, il ferma les yeux, s'accrocha. L'étrange concoction de plantes, était-ce le gouffre de leur fumoir, était-ce la fumée de leur cigare qui lui donnait cette fièvre des Andes? À l'entrée de l'autre côté de son miroir, l'attendaient d'immenses cieux. Les secrets du même coup qu'il est.
plantes? Était-ce le gouffre de leurs yeux noirs? Était-ce la fumée de leurs cigares qui lui donnait cette fièvre des Andes?
Fièvre des Andes, des Trois Accords.
Et aujourd'hui, je reçois quelqu'un que je connais bien. En fait, on peut dire qu'on est amis.
On est amis, bien sûr.
Oui, Victor Junior Roberge, qui est une figure marquante de l'engagement social, qui vient tout juste de recevoir une médaille de l'Assemblée nationale du Québec. C'est pas rien. Félicitations.
Merci.
Je vais le nommer parce que je trouve que ça fait aussi partie de ton engagement. T'es issu quand même, t'as des origines autochtones et t'agis depuis plus de 15 ans pour l'inclusion des communautés de LGBTQIA+, des femmes et des personnes vulnérables. Alors, tu trouves-tu le temps de dormir dans ça?
Ben absolument. C'est une passion pour moi.
Oui. Ben, alors donc, le 13 février dernier, la députée Karine Boisvert-Roy t'a remis cette distinction lors d'une cérémonie très touchante. Ça représente quoi de recevoir une telle reconnaissance pour toi?
Mais je pense que c'est de reconnaître les gens qui sont invisibles. Mm-hmm. Tu sais, dans le milieu LGBT, dans le milieu de tous les jours, c'est toujours les mêmes visages qu'on voit, c'est toujours les mêmes reconnaissances, les mêmes personnes qui vont passer devant ces prix-là. Mm-hmm. Et je crois que c'est important de ressortir les vraies personnes du lot. Tu sais, quand on parle d'homosexualité, qu'on parle de plusieurs sujets, de prix, il ne faut pas juste aller donner toujours à la même personne. Je pense qu'il faut pouvoir
faut
aider les autres.
Il faut reconnaître ceux et celles et celui qui travaillent dans l'ombre, finalement.
Exactement.
Parce que tu es quand même quelqu'un qui est plus dans l'ombre que beaucoup d'autres. Quand tu te fais... Tu as quand même été à Fraîchement Jeudi, mais tu ne te mettais pas de l'avant avec ça, là.
Mais je pense... Je ne suis pas là pour me mettre dans l'ombre d'être faire du védétariat. Je suis plutôt d'aider les gens sans voix, sans possibilité. Tu sais, moi, j'ai toujours été différent. J'ai toujours été grand, gros, inféminé. Donc, je fais partie vraiment d'une classe à part, un peu comme les losers au secondaire, mais c'est pas le cas. J'ai de la bonté en moi, j'ai de la possibilité.
Est-ce que tu penses que le fait que t'étais grand, gros, comme tu te dis, efféminé, t'as subi de l'intimidation, est-ce que c'est ça qui a peut-être changé ta façon, qui t'a motivé peut-être à aller de l'avant?
Ben, absolument que j'ai vécu de l'intimidation. Moi, j'en ai vécu tous les jours et j'en vis toujours.
Ouais.
J'en ai vécu en milieu de travail, j'en ai vécu en milieu communautaire. J'en vis moi-même dans la communauté LGBT parce que la différence... Elle attaque les gens.
Ouais. Puis souvent, quand on n'est pas conforme à ce qu'on, à l'idéal de beauté qui est très masculiniste, mais qui existe, ouais, ça joue beaucoup. Parle-moi, dans ton allocution, tu as mentionné que ton engagement, ça t'a été inspiré par Jean-Claude Lapointe, ton mentor. Qui était-il?
Mais Jean-Claude Lapointe était à Équipe Montréal et il m'a permis de m'élever, de connaître la philanthropie, de connaître
Équipe Montréal, c'est...
les axes. Équipe Montréal était le regroupement et toujours le regroupement d'équipes LGBT de Montréal.
Ouais. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui t'a pris sous son aile puis qui t'a aidé là, à grandir.
Il m'a aidé à grandir, mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a eu des femmes là-dedans.
Oui.
Tu sais, Martine Roy a été une grande
Martine
impact.
Martine Roy qui fait partie du fond de la purge, hein, puis qui s'est battue pour les personnes qui ont perdu leur emploi ou leur job au fédéral et dans l'armée.
Oui. Et si on parle aussi, il y a eu Denise Voudoumis, avec qui je collabore en ce moment où je fais du bénévolat à Pink and the City.
Oui. C'est quoi ce Pink and the City?
Pink and the City, c'est un organisme qui s'occupe des soins post-cancer du sein.
Ah oui, c'est vrai. Donc, tu t'es engagé là-dedans. C'est un nouvel engagement pour toi, je crois. Hein?
C'est un engagement d'environ 3 ans.
Ouais.
3 ans de voir que je pouvais changer la vie de ces filles-là.
Tu as aussi dédié ta médaille à ta mère et à ton conjoint et aux femmes qui ont jalonné ton parcours. Tu viens de mentionner des femmes, mais pourquoi ta mère?
Mais tu sais, ma mère, c'était une personne... qui était capable de pouvoir aller aider l'itinérant au coin de la rue, qui était capable de pouvoir donner sa chemise à l'autre voisin immigrant qui venait d'arriver au pays. C'est une femme là, qui est prête à tout faire. On dirait peut-être Mère Teresa.
Ah ouais. Puis ta maman, c'est tes origines aussi autochtones?
Oui, ma mère vient de Mayo-Tenam-Sept-Îles, donc elle nous a pas vraiment élevés à la culture amérindienne. J'ai découvert la culture amérindienne beaucoup plus tard dans ma vie.
Tu t'es réapproprié, finalement.
J'ai réapproprié ma culture, absolument. Ouais.
Et ça a changé quoi dans ta vie?
Mais c'est important de savoir d'où qu'on vient, nos racines, la profondeur de tout ça. Puis ça l'a aussi accepté, ça m'a aussi accepté beaucoup plus ma différence, la personne que j'étais.
T'as aussi, je l'ai mentionné, ton conjoint Horacio, à qui t'as rendu hommage? Oh, t'es pas capable d'en parler?
Mais Horacio, c'est une personne qui est issue de l'immigration mexicaine, donc qui a vécu quand même beaucoup de choses dans son pays. Ça a été très difficile de rentrer au Québec. Toute l'assistance de parrainage, de prouver le mariage, de prouver l'amour, toujours en train encore en situation de bataille, toujours en train de lutter. T'sais, moi, je suis un grand lutteur dans la vie. Tout ce qui est pas conforme ou qui est hors norme, moi, je me bats pour ça.
Et... Donc, tu reçois cette reconnaissance qui arrive quand même après 15 ans, mais tu en as reçu plus qu'une, tu en as reçu 3 en tout, hein, cette année.
Oui, mais tu sais, on n'est pas là pour les reconnaissances. Ouais. Moi, les reconnaissances, je vais vous le dire, je les mets dans mon tiroir. Pour moi, une reconnaissance, ça vient juste valider mon travail.
C'est une petite tape dans le dos, ça fait du bien.
Oui, ça vient juste dire, on est là, on t'a vu, maintenant... Puis en même temps, ça me recharge aussi les batteries intérieures. Ça me permet à poursuivre. Tu sais, moi, l'impossible n'est pas possible.
Ah oui. Il n'y a jamais de problème, c'est des occasions de trouver des solutions.
Exactement.
Alors, après avoir reçu donc cette médaille-là de la députée et celle de la députée Rachel Bendayan aussi, qu'est-ce que tu espères envoyer comme message? Parce qu'on reçoit ces médailles-là, quand on en parle, c'est parce qu'on veut aussi envoyer un message.
Mais le message que j'ai envoyé, c'est malgré la différence, malgré qu'on ne rentre pas dans la norme, qu'on ne rentre pas dans le modèle, on a le droit, on a notre place dans cette société-là. Puis qu'on soit femme, qu'on soit homme, qu'on soit personne non-binaire, qu'on soit une personne trans, c'est pas grave. On a toute notre possibilité de pouvoir parler. Chaque personne a cette possibilité-là d'avancement. Quand on y croit, on y peut.
Est-ce que nous, comme personnes peut-être plus privilégiées dans la société qui avons des plateformes, est-ce qu'on donne la parole ou on monte le volume?
Ouh!
Ah, c'est une bonne question parce que la parole, les gens, c'est leur parole, on n'a pas à leur donner. Non?
Mais je vais dire que pour ma part, je monte le volume.
Oui, hein?
Je monte le volume parce que j'ai souvent été opprimé, j'ai souvent été jugé, j'ai souvent été intimidé.
Et pourquoi? Parce que tu étais différent, parce que tu étais efféminé, gros. Ben, t'es plus gros maintenant, mais c'est pas un problème.
Mais non, la grossophobie, moi, c'était pour un état de santé. Là, ouais. Ma santé allait pas bien, donc j'ai reçu une opération, une sleeve. Mais on se lève... Tu sais, moi, j'ai pas de problème de dire les vraies choses.
Ouais.
J'ai pas de problème de dire comme je suis, comment je me sens. C'est important de verbaliser le « je ». Je me sens, je me choisis, je vais de l'avant.
Et justement, je te pose la question, tu te sens comment aujourd'hui?
Je me sens bien.
Ouais.
On va pas se cacher que par rapport à mon enveloppe corporelle, j'ai quand même perdu 240 livres après une bariatrique.
Ouais.
C'est un changement.
Puis là, on s'entend parce qu'on n'est pas ici pour dire aux gens, faites-vous tous opérer parce que d'être gros, c'est pas bon. Non, mais dans ton cas, c'est un problème de santé.
Mais dans mon cas, c'est un problème de santé, un problème de dos. Ouais. Donc, il a fallu que je me donne les outils pour pouvoir avancer parce qu'on peut être gros, on peut avoir les cheveux roses. L'important, c'est qu'est-ce qu'on redonne.
Mm-hmm. Et... Donc, tu as été avec Fraîchement Jeudi, qui est une émission de radio LGBT qui a quand même duré 5 ans, si je ne me trompe pas.
5 ans.
5 ans. Tu es avec Pink in the City. Tu as été avec Équipe Montréal aussi. Je pense que tu l'es encore.
Non, Équipe Montréal, pour moi, c'est un autre... J'ai laissé le flambeau.
Ouais.
Donc, en ce moment, je fais partie de Pink in the City, qui est tellement une belle association, qui font tellement des beaux soins post-cancer. On offre des services de sexologues, de psychologues, d'entraîneurs à des gens qui n'ont pas les moyens financiers.
Mm-hmm.
On achète aussi des machines pour le MUHC. Donc, ça, c'est le QZUM. On travaille super fort et dernièrement, je me suis joint aussi parce que, tu sais, c'est pas juste le post-cancer ou la chirurgie qui est important, mais il y a des gens qui ne veulent pas avoir cette chirurgie de reconstruction. Donc, dernièrement, pour être complet, je me suis joint à Empower Inc., oui. qui est une association de femmes qui font du tatouage, de la reconstruction mammaire.
Ah oui, c'est vrai, parce qu'il y a des femmes qui ne font pas l'opération pour remplacer...
avoir des implants ou des seins,
pour remplacer le sein qui a été enlevé. Tes projets?
Ah, mais mes projets, c'est de faire grandir ces gens-là, de faire grandir ces associations-là, de donner la voix à ces femmes-là. Et je peux laisser un petit secret.
Oui, c'est le secret ici.
Je trouve qu'au niveau de la population LGBT, la femme, pour moi, la femme, c'est ma reine. Ma mère, c'est ma reine, c'est ma vie. Donc, j'essaie de travailler sur un projet qui va mettre la femme de l'avant au niveau de la communauté LGBT.
Wow. Alors, pas plus de détails que ça?
Malheureusement, je peux pas. J'attends encore des validations, mais on travaille très fort.
Ah, ben Victor Junior Roberge, merci beaucoup. C'était un plaisir de t'entendre aujourd'hui.
Merci.
Parmi mes frères et sœurs, gardien d'un héritage d'aussi loin que je me souvienne, puis des premiers âges, pour voir à ta route engagée le rêve et cet espoir, une offrande à tes pensées jusqu'à toucher le ciel.
On écoute Saul Kinoske, Nikamu Manuitum.
Alors, Étienne Thibault est un comédien. C'est une voix montante et engagée de notre scène théâtrale. Diplômé de l'École nationale de théâtre et président du Cercle des Premières Nations de l'institution, il sera plutôt à l'affiche chez Duceppe dans la pièce Top Can. Il va me corriger si j'ai mal prononcé le mot. À compter de demain jusqu'au 4 avril. Étienne, je peux te dire bonjour, Koué?
Oui.
J'ai bien prononcé Top Can, c'est ça?
Pas tout à fait, tout à mais fait. Je te pardonne. Écoute, c'est normal. On prononce ça plutôt Dub Guan.
Dub Guan.
Exact.
J'ai fait des recherches depuis 2 jours. J'aurais peut-être dû appeler Duceppe, ça aurait été plus simple pour le bien prononcer. Dub Guan. Alors, pour commencer, est-ce qu'on peut parler de l'univers justement de cette pièce?
Oui, certainement. Ben, on se trouve dans un Québec fictif, là, on nomme pas nécessairement de place, là. Déjà, ça, c'est intéressant, je pense. où dans une communauté autochtone, on suit trois personnages, ben, dont le mien principalement, qui va se présenter pour être chef du conseil de bande, dans le but de faire tomber le conseil qui est en place, qu'eux, ils soupçonnent être faire de la corruption et des choses comme ça, des magouilles, bref.
Ah ouais.
Donc, c'est la trame commence comme ça. Puis à la fois, je dirais qu'on a cette intrigue-là plutôt politique, mais on a le parcours plutôt spirituel de mon personnage qui va devoir retourner dans le passé pour trouver un objet que son frère a volé, un objet sacré très important. Et donc, il y a cette espèce de présence-là de son frère disparu qui va l'accompagner tout le long de la pièce. Donc, on jongle avec deux univers, donc très concrets dans le présent, puis aussi un univers plutôt du rêve tout au long de la pièce.
Donc, j'imagine que cette histoire-là, c'est ce qui a motivé de choisir le nom de Dub Kwan. Je le prononce bien, là, hein? Oui. Alors, ça veut dire quoi, ce mot-là?
Ça veut dire territoire.
Territoire.
Ouais.
OK.
Puis, donc, territoire qui est important, c'est comme un mot super important pour toutes les nations, évidemment, pour la ma nation et nous, on va dire Nutchimit.
Nutchimit. Ouais. La pièce traite de la rencontre donc entre le monde moderne et les racines ancestrales. Comment tu perçois ton personnage là-dedans? Parce que lui, il se promène dans les deux mondes, si je comprends là.
Oui, c'est ça. Ben, moi, je pense que mon personnage, c'est vraiment le bon. Il est bien écrit pour qu'on s'y attache, qu'on le suive, parce que c'est vraiment sa transformation. Il rejette beaucoup sa culture au départ. Tu vois qu'il est dans sa communauté. Mais tout ce qui est plutôt culturel, spirituel, on sent qu'il y a eu une blessure, qu'il y a eu quelque chose qui a voulu se séparer de ces choses-là.
Okay.
Puis durant la pièce, lui, il va avoir un parcours où il va redécouvrir plein de choses en allant fouiller dans son passé. Fait que je pense que le spectateur va vraiment suivre ce parcours-là. Puis je pense qu'en chemin, les spectateurs, qu'ils soient allochtones ou autochtones, parce qu'on parle, oui, de spiritualité, d'objets sacrés autochtones, on parle aussi de famille, tu sais. On parle de culture, on parle de choses du passé qu'on oublie, qu'on perd. Ily va refaire le chemin de tout ça pour arriver à la fin de la pièce, que je vous dirai pas qu'est-ce qui se passe, mais donc, je pense qu'il y a ça d'intéressant du personnage de Paul Ham qui s'appelle, c'est qu'il va remonter dans ses racines. Puis je pense que ça, c'est en ce moment, ça peut toucher beaucoup de monde à plusieurs niveaux.
Oui, ben j'ai l'impression que c'est donc il évolue, si je comprends bien, entre un personnage ou une personne tiraillée entre sa culture et le monde moderne, puis finalement il devient un pont. C'est peut-être ça. Je sais pas si je me trompe là.
Non, c'est super bien résumé en fait. Ouais, tout à fait. Okay. Il va devenir un pont à travers ça parce que. D'où le parcours que je mentionnais, vu qu'on peut s'identifier peut-être où il se positionne au début, ben son parcours nous permet de faire le pont, effectivement.
Alors, ce spectacle est une création de Janie Lauzon et Benoît Vermeulen, c'est ça?
Non, pas tout à fait.
Non?
Non, ce spectacle-là est une création de Soleil Launière.
Soleil Launière, OK. Alors,
oui.
Je me suis trompé dans mes noms là, en faisant cette préparation-là.
C'est bien correct.
Soleil Launière qui était à l'émission, oui. Je l'ai interviewé la semaine dernière, je crois. Alors, comment ça s'est déroulé, justement, ce processus de création-là, travail de répétition, une pièce qui intrigue, qui intègre autant de dimensions visuelles et symboliques?
Dans le processus, nous autres, ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus.
Deux ans?
Oui, parce que c'est prévu, le spectacle, dans le fond, c'est pour souligner les 40 ans de la compagnie de théâtre Ondinoc. 40 ans de théâtre autochtone francophone au Québec. Donc, c'est pour ça, on est vraiment beaucoup... c'est pour ça qu'il y a 3 compagnies autochtones qui se sont amenées ensemble sur le projet. On a la compagnie de Soleil, on a la compagnie Ondinoc, puis on a la compagnie Menouin-Tagouan. Donc, ces 3 compagnies de théâtre-là, ça fait 2 ans qu'on travaille sur le texte, on fait des improvisations... déjà, dès le départ, les auteurs, il y avait une idée d'intégrer l'objet du wampum, donc qui est un objet... on en apprend un peu plus dans la pièce sur cet objet-là. Le wampum, c'est l'équivalent du contrat pour les Autochtones. Donc, quand une alliance était faite avec une autre nation ou avec, mettons, les Français puis des Autochtones, on pouvait, avec du perlage de coquillage sur une ceinture, officialiser c'est quoi l'entente qu'on s'est fait aujourd'hui. Donc, c'est un objet très sacré sur lequel on s'est basé pour faire la création, mais ça a beaucoup évolué depuis ce temps-là.
Alors, la mise en scène laisse une grande place à l'improvisation, si je comprends bien, là.
C'est surtout dans la
création.
La création. Okay. Oui, exactement. On a fait beaucoup d'improvisation, ce qui fait qu'il y a un des personnages, le personnage de Jeanne, qui n'existait pas au départ, puis vu qu'elle est venue faire des improvisations avec nous, tout d'un coup, les auteurs ils ont eu l'idée crime. Donc, c'est vraiment le travail collectif qui a fait émerger l'histoire.
D'accord. Tu joues sur la scène de Ducef, c'est quand même un lieu chargé d'histoire hein, dans le théâtre québécois, qui a présenté beaucoup de pièces québécoises, de pièces états-uniennes. Quelle importance tu accordes au fait que tu vas porter cette parole des premiers peuples autochtones contemporains dans une institution d'une telle envergure?
Je me sens chanceux parce que je suis pas trop stressé.
Bravo!
je sais pas comment ça c'est arrivé de même, mais je pense que c'est parce que je suis bien entouré d'une gang super. Mais effectivement, là, quand j'y pense, c'est un moment historique, en fait. Je pense que c'est une des premières fois, en fait, parce que moi, j'avais monté sur scène chez Ducep avec Manica Natish
oui.
Il y a 3 ans de cela.
Très
où
belle
je faisais
pièce,
la musique, j'étais guitariste sur scène. Puis déjà là, c'était un premier pas. Écoute, je pense que ça devait être la première fois qu'on entendait une langue autochtone, en tout cas la langue innu, être parlée sur scène.
Ouais.
Et puis là, on fait un autre pas de l'avant. Là, en plus, il va y avoir de la langue innu, il va y avoir la langue Ganyangeaga.
Oui.
Puis on est plusieurs générations, puis là, c'est vraiment une création collective. Moi, je pense que c'est... Non, ça me rend très fier de porter cette parole-là. Puis... J'ai l'impression que le spectacle va réussir aussi à faire un pont encore plus entre nos peuples.
Mais j'ai l'impression qu'avec la nouvelle équipe hein, qui est là depuis quelques années chez Ducep, il y a vraiment une approche décoloniale du théâtre et de plus en plus on voit des artistes de plusieurs horizons, dont des artistes des premiers peuples qui sont mis de l'avant. Comment tu vois ça, toi, comme artiste qui s'identifie aussi comme étant un artiste des premiers peuples? Comment tu vois cette approche du théâtre? Et beaucoup de théâtres le font, d'ailleurs. On ne va pas juste dire que c'est juste c'est du self, ça se fait pas mal partout.
Oui. Moi, je trouve ça super. Je pense que le milieu théâtral est vraiment un milieu qui est avant-gardiste à ce niveau-là. Je veux dire, on le voit dans d'autres sphères, mais peut-être que c'est aussi la nature de l'art qu'on fait. C'est un art qui est tellement collectif. On est vraiment des grosses gangs, des grosses équipes, ça devient des familles. Je pense que ça fait que les discussions avancent vite entre nous, les changements avancent vite. Je pense que les gars, effectivement, ils prennent des risques, ils font des gros moves
ouais.
pour faire avancer des causes comme ça. Puis tout, je leur relève mon chapeau. Je pense que c'est important la place qu'ils nous laissent, puis c'est nécessaire.
Oui, tout à fait.
Puis je pense que pour l'avenir, on va en avoir de plus en plus parce que j'ai l'impression que le public a soif de ça aussi. Exact.
Écoute, moi je me pose la question. Le fait de jouer ce rôle que tu joues, je reviens là-dessus, parce qu'on parle, tu sais, comment le théâtre fait évoluer les choses. Est-ce que toi, ça a changé ta façon de te percevoir comme personne, ce regard, ce personnage que tu joues?
Ah, c'est intéressant. Ben oui,
la question qui tue, oui.
Ouais, la question, ben oui, oui, 100%. Écoute, parce que moi-même, j'ai vécu ça, là. Donc, je suis Première Nation, mais j'ai pas grandi avec ma culture. Je la redécouvre, moi.
Mm-hmm.
Donc, clairement, mon personnage, il me fait vivre quelque chose à chaque soir. Puis, il vit des conflits que j'ai déjà vécu à l'intérieur de moi. Moi, j'ai fait ce parcours-là, ça fait déjà plusieurs années, mais quand même, puis moi, ce que je trouve intéressant, c'est... voir mes frères et sœurs, même mes oncles, mes tantes ou d'autres pères autochtones qui viennent nous voir après puis qui sont en train de faire le chemin de reconnecter avec leur culture, tu sais, puis qui nous remercient de ce qu'on fait pour les aider à faire ce chemin-là.
On est dans un monde assez difficile, mais il y a aussi hein, des efforts de réconciliation. Est-ce que la réconciliation entre les Allochtones et les Autochtones peut se faire ou ça pourrait être peut-être l'élément déclencheur d'une pièce de théâtre comme celle-ci?
C'est une super bonne question parce que je pense qu'il y a il y a beaucoup d'enjeux politiques qui, je trouve, mettent des bâtons dans les roues autant aux Autochtones qu'aux Allochtones pour faire ce projet-là ensemble. Je pense que l'intérêt de la réconciliation est sincère chez les Québécois, les Québécoises, puis les Autochtones. Puis je pense la meilleure façon, en tout cas, que moi je vois, puis c'est mon petit grain de sel, c'est que le théâtre, ça permet qu'on se rencontre pour vrai.
Oui, une vraie belle rencontre, oui.
Ça, là, c'est des choses qui sont précieuses ces temps-ci dans un ère numérique polarisé.
Oui.
Où qu'on peut se mettre à penser bien des choses de l'un de l'autre de notre côté puis à se fâcher. Bien là, on vient au théâtre, on reçoit une œuvre, on est avec le public, les gens sont autour de nous, puis on peut discuter directement près de ce qu'on vient de voir.
Tout à fait. Fait
que je pense sincèrement que le théâtre a quelque chose, en tout cas, de guérisseur là-dedans, qui peut nous aider avec la réconciliation. C'est sûr,
Étienne Thibault, c'est un plaisir de te recevoir à cette émission. Et je rappelle que Dub Kwan va être présenté chez Duceppe à compter donc de demain, puis ça dure jusqu'au 4 avril, je ne me suis pas trompé. Voilà.
Exactement.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ça m'a fait plaisir, merci à toi.
Allez, au revoir. J'ai le temps de vous dire merci tout le monde. Merci à Mathieu Tessier qui a fait la régie aujourd'hui, qui a fait la mise en onde. Je remercie Hélène Denis qui est l'animatrice habituelle mais qui est absente jusqu'à la semaine prochaine, qui m'a aidé à la recherche pour cette émission. Je m'appelle Denis Martin Chabot. Je vous dis au revoir et à demain.